Seigneur, tu nous as rassemblés dans cette maison d'adoration ce matin parce que tu veux communier avec nous autour de ta parole. Que tout en nous, Seigneur, se taise maintenant et que toi seul, Seigneur, tu parles. Merci, Seigneur, Père éternel, de disposer toutes choses, Père éternel, dans nos cœurs afin que ta parole, Seigneur, soit entendue. Et qu'elle porte, Père éternel, les fruits que toi tu attends. Merci Seigneur de parler. Nous qui sommes tes enfants, nous t'écoutons. Amen. Nous avons pour ce matin trois textes. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Hébreux 2, 9 à 11, et l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 2 à 16. Marc, chapitre 2, les versets, Marc, chapitre 10, les versets 2 à 16. Je nous donne la lecture dans la version 8 secondes. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hébreux chapitre 2, versets 9 à 11. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Marc 10, verset 2 à 11, à 16. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenèrent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Bien-aimé, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce ce matin d'être le porte-parole du message qu'il a communiqué à chacun d'entre nous ici présents. Dimanche dernier, le Seigneur attirait notre attention sur les scandales et sur le sort qui est réservé à ceux qui ont des attitudes scandaleuses. Il y a aujourd'hui un phénomène qui gangrène notre société, qui déstabilise nos familles et qui met en péril l'institution de notre Seigneur. Il s'agit du divorce. D'après le résultat d'une enquête menée par l'association Hope Matrimonial and Family Support près du tribunal de grande instance du Vouri, pour la seule ville de Douala, dans la région du littoral, les autorités judiciaires reçoivent entre 25 et 40 dossiers de demande de divorce par mois, ce qui porte à 32 la moyenne mensuelle des couples en voie de séparation dans les tribunaux. Et au total,
360 demandes de divorce par an pour un seul tribunal. Maintenant, imaginez donc dans toutes les autres régions. C'est pour dire combien la situation peut être préoccupante. Et voici quelques-uns des motifs qui reviennent d'une manière régulière. Infidélité, sorcellerie dans le couple, violence psychologique ou physique, insultes, incompatibilité d'humeur, menaces, polygamie, stérilité, impuissance sexuelle, absence injustifiée, etc. D'où le thème de notre message de ce jour, attention à la dureté de ton cœur. Pour revenir à l'évangile que nous venons de lire, Jésus a quitté le territoire de Capernaum pour se rendre en Judée, de l'autre côté du Jourdain, plus précisément à Péré. Une foule se rassemble autour de lui et du milieu d'elle des pharisiens qui cherchent à discréditer publiquement le ministère de Jésus. La perte de la popularité, qui espérait-il, s'ensuivrait, leur permettrait de le démolir plus facilement. En plus, la Pérée était gouvernée par Hérode Antipas, celui-là même qui avait emprisonné Jean-Baptiste en raison de son opinion sur le divorce et le remariage. Les pharisiens espéraient sans aucun doute que Jésus subirait le même sort. Nous voyons combien leur cœur était rempli de malice et de méchanceté. Nous sommes à une période très délicate de la vie de notre nation où des pharisiens cherchent par tous les moyens à déstabiliser ceux qu'ils ont en face d'eux. Ils cherchent à se maintenir, à maintenir leur position sociale. Pour cette raison, il faut noircir les autres. Heureusement que la foule n'est pas due. Les pharisiens tendèrent le piège à Jésus grâce à une question épineuse sur les lois du judaïsme du premier siècle, le divorce. Deux visions s'affrontent ici. L'une autorisait le divorce pour pratiquement n'importe quelle raison, alors que l'autre interdisait formellement, sauf en cas d'adultère. Jésus, ayant compris le fond de leur pensée, sait que le problème se trouve dans l'enseignement biblique. C'est sur ce terrain qu'il les amène. Et il pose la question à ses pharisiens. Qu'est-ce que Moïse a prescrit? Il savait qu'ils étaient des loyalistes et parfois des personnes qui s'accrochait à la loi et même la déformait. En s'appuyant sur le passage de Deutéronome 24, verset 1, qui dit ceci, je cite, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renvoyait de sa maison. » Pour justifier leur position, voilà le texte qu'ils brandissent en disant que Moïse a prescrit d'écrire une lettre de divorce et puis de la répudier. Ce passage, d'après certains commentateurs, ne recommande pas et ne justifie même pas le divorce. C'est comme si vous demandiez à vos enfants de ne pas être hors du portail après 18 heures et que par la suite, vous donniez une torche à chaque enfant qui sort de la maison. Est-ce que le fait que vous avez donné la torche à l'enfant voudrait dire qu'il doit rentrer après 18 heures? Pas forcément, n'est-ce pas? Et c'est ce que il est important de comprendre ici. Et nous comprenons pourquoi Jésus peut leur reprocher de la dureté de leur cœur en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit ce qu'il a dit. Il reconnaît, Moïse reconnaît que le divorce peut arriver, mais ce ne serait qu'à cause de la dureté de nos cœurs, de la dureté des cœurs des hommes. Le mot grâce, tel qu'évoqué dans le verset 1 du Deutéronome 24 que nous venons de lire, a la même signification en hébreu, chêne signifie élégant, précieux. En d'autres termes, le passage nous dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver celle-ci élégante ou précieuse à ses yeux, doit lui faire une lettre de divorce. Nous comprenons pourquoi Jésus peut dire que c'est à cause de la dureté de notre cœur. Si pour peu qu'on trouve un défaut à sa femme, il faut la répudier en lui faisant une lettre de divorce et reprendre une autre, c'est un problème de cœur. En réalité, la responsabilité de prendre soin de son épouse revient à qui? Qui est celui qui doit présenter son épouse parfaite devant le Seigneur? Il est donc important que nous revenions à notre responsabilité et que nous voyons quelle est notre part dans notre vie de couple et que nos cœurs qui sont durs, qui sont promptes à condamner, qui sont promptes à rejeter, soient assouplis par l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que si chez les Juifs, c'était les hommes qui écrivaient la lettre de divorce, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les femmes qui sont dans les tribunaux pour demander le divorce, n'est-ce pas? Ceci simplement parce que dans les foyers, chacun n'est plus à sa place. Chacun ne respecte plus son rôle dans le foyer. La femme veut devenir l'homme de la maison et l'homme veut absolument dominer, utiliser son autorité et mépriser celle qui est sa compagne. La dureté du cœur de l'homme, c'est-à-dire le genre humain, est d'actualité aujourd'hui, tout comme au temps de Moïse. Cette dureté du cœur résulte aussi d'une vision égoïste du monde, c'est-à-dire que l'homme a un point de vue purement humain, plutôt que de voir les choses telles que Dieu les voit. Aujourd'hui, le mariage n'est plus vu selon la perspective divine, mais selon les penchants des uns et des autres. Et tant que les choses sont ainsi, il sera difficile d'expérimenter un mariage heureux. C'est la raison pour laquelle nous voyons autour de nous beaucoup de tentatives pour instaurer d'autres formes d'union. On entend aujourd'hui dans les pays occidentaux que les hommes célèbrent les mariages avec les animaux, la promotion du mariage homosexuel et bien d'autres choses. Le témoignage de l'amour dans les couples chrétiens est primordial pour que le plan de Dieu soit vécu dans le monde. Pour refixer la pensée de Dieu au sujet du mariage, Jésus va rentrer avant la loi de Moïse dans le livre du commencement de toutes choses que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Dieu fit le constat que sa création était très bonne, ce fut en la considérant comme le résultat parfait à ce moment-là de son projet créateur. Le commentaire qu'il fait sur la condition de l'homme porte sur son état d'inachèvement avant la fin du sixième jour. En effet, la femme, homologue d'Adam, n'avait pas encore été créée. Les mots du verset 18 soulignent le besoin qu'avait l'homme d'une compagne qui soit son aide et son égale. Il était incomplet sans aide pour se multiplier rempli la terre et l'a dominée. Cela souligne l'imperfection d'Adam et non l'insuffisance d'Ève. Et le texte de 1 Corinthiens 11, le verset 9, peut nous dire que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. La femme a été créée par Dieu pour parer au manque de l'homme. Après la première opération chirurgicale, la femme est créée de la côte de l'homme. La déclaration d'Adam à la vue de cette femme traduit le plaisir qu'il éprouve face à cette compagne nouvellement trouvée. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Parce que le texte nous le dit, il avait donné le nom à tous les animaux qui avaient défilé devant lui et il n'avait trouvé personne qui était semblable à lui. Mais cette fois-ci, il a trouvé quelqu'un qui est comme lui, son vis-à-vis. Mais comment comprendre qu'une personne qui fasse une telle déclaration profonde et significative, quelques temps après, va commencer à accuser cette femme lorsque Satan va venir les tenter, n'est-ce pas? Et il va dire, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Une autre manière de dire qu'en réalité, c'est le péché qui est venu dénaturer ce qui au départ était bien. C'est le péché qui est venu détruire ce que Dieu initialement avait trouvé bon et parfait pour l'homme. Et c'est l'homme encore qui donne le nom de la femme. Il dit, parce qu'elle a été tirée de moi, son nom c'est femme, n'est-ce pas? Et la racine du mot femme signifie doux. Donc, l'une des choses qui caractérise normalement une femme, c'est sa douceur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes sont encore douces? Lui, bien-aimé, elle a vraiment été créée à partir de ses os et de sa chair. Et il y a un lien très étroit entre les deux. Il y a une union suffisamment forte entre les deux. Comment donc comprendre que ce lien étroit soit brisé au point où on parle de divorce? Au verset 24 du texte de la Genèse, de Genèse 2, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne formeront plus qu'un, une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Ils sont une seule chair. La relation conjugale est la première institution humaine établie par Dieu. La responsabilité d'honorer nos parents ne prend pas fin lorsque nous les quittons pour nous marier. Mais il y a inauguration d'une responsabilité fondamentale nouvelle. Le verbe s'attacher implique une union permanente et indissoluble sans que le divorce soit envisagé. L'expression une seule chair décrit une unité complète de parties qui forment un tout. Cette union conjugale est complète et entière avec deux personnes. Et très souvent, on a vu des officiants qui, pendant la célébration du mariage, utilisaient une image pour symboliser cette unité. Le verre d'eau à moitié plein qu'on remplit avec un jus. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore séparer le jus de l'eau? Ce n'est pas possible. Et c'est ça la vision de Dieu au sujet du mariage. C'est bien ici le défi de notre vie en tant que chrétien. Lutter pour maintenir l'unité que Dieu a voulu pour le mariage. De cette unité dépend notre vie familiale. Et je voudrais dire à quelqu'un qui peut-être déjà était en instance de divorce, reconsidère ta position. Rentre dans la volonté de Dieu pour ton mariage. Et je voudrais également attirer l'attention des jeunes gens sur la question du mariage. C'est une chose suffisamment sérieuse pour laquelle est-ce qu'il faut bien mûrir, bien réfléchir et être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu pour s'y engager, parce qu'il n'y a pas de marche arrière dans le mariage. Choisir, c'est... Et une fois qu'on a choisi, on assume son choix. La deuxième hypothèse qui était évoquée, c'était celui de la possibilité du divorce, mais pour cause d'infidélité ou d'adultère. Pourquoi est-ce que Jésus peut prescrire ou bien dire que le divorce n'est autorisé que dans le cas de l'adultère? En réalité, l'adultère est quelque chose de suffisamment dangereux. C'est une trahison. C'est une traîtrise. C'est même un acte criminel que les uns et les autres peuvent adopter. Donc si quelqu'un vit dans l'adultère, il n'est pas différent d'un criminel. Comment est-ce que devant une personne à qui est-ce que tu as fait des vœux d'amour, de fidélité, tels qu'on les entend souvent pendant les célébrations de mariage, tu peux poignarder la personne dans les deux en allant avec une autre personne? Ce n'est pas différent de tuer cette personne. Et Dieu seul sait combien est-ce que les couples souffrent à cause de cette situation. Et parce que le mariage, avant tout, se consolide au travers de l'acte sexuel, aller avec une autre personne, c'est rompre la première alliance que vous avez établie avec votre conjoint. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de faire suffisamment attention à cette ruse de l'ennemi qui vient nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie et déstabilise la vie de nos couples. Et certaines personnes pensent que pour résoudre le problème de la femme qui peut avoir une attitude insoumise, une attitude de rebelle, il faut aller prendre une autre, n'est-ce pas? Mais il faut aller gérer un deuxième bureau. Je peux vous rappeler une chose, c'est que ce n'est pas là la solution. On a connu plusieurs personnes qui aujourd'hui fuient leur maison, soit dorment au bar ou dorment chez leurs amis, parce qu'ils ont fini d'accumuler les autres femmes à la maison et toutes les femmes se sont liguées contre lui. Il a dû quitter la maison. Rentre prendre soin de ton épouse à la maison. Bien-aimé, il n'y a rien de glorieux dans l'infidélité. C'est un crime à l'endroit de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais Christ lui-même, malgré cela, dit de prier pour ses ennemis. Même si ton mari, même si ta femme est dans une attitude d'adultère, ce que le Seigneur voudrait que tu fasses, c'est que tu te mettes dans une attitude de prière. Certaines personnes y sont tombées une fois et ils sont restés parce qu'on leur a donné la tête de maquereau, n'est-ce pas? Et vous avez besoin de prier pour qu'il soit délivré de cette chose-là. La deuxième partie de l'évangile que nous venons de lire et le texte d'Hébreux nous suggère quelques attitudes qui pourraient nous aider à sortir de cette dureté du cœur que nous avons. La première des choses, c'est que Jésus-Christ est mort. Il s'est humilié. Il s'est abaissé pour prendre notre place. Et c'est un appel à l'humilité dans notre vie conjugale. C'est un appel à se rabaisser dans la vie conjugale. Même parfois, quand on a raison, fermer les yeux sur certaines choses pour que la situation ne s'envenime pas et ne gangrène pas pour détruire notre vie de couple. La deuxième des choses, c'est qu'il est important de se soutenir mutuellement. Jésus-Christ a accepté de prendre notre place, de prendre notre condition. Et il est important que dans la vie du couple, que les uns et les autres également se soutiennent. Se tiennent la main dans la main et s'accompagnent dans les moments difficiles. On a vu des femmes quitter leur mari lorsqu'ils ont perdu leur travail, lorsqu'ils ont eu un accident qui les rendait invalides et vice-versa. Il est question de se soutenir mutuellement. Et l'autre chose, c'est qu'il est important de réaliser que lorsque nous sommes mariés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des frères et des sœurs. et les frères et les sœurs se soutiennent. Et dans la deuxième partie de l'évangile, en utilisant l'image du petit enfant, Jésus veut davantage insister sur l'humilité qui doit caractériser chacun d'entre nous. Trois choses donc importantes peuvent nous aider à sortir de la dureté de notre cœur. Nous devons demander au Seigneur de nous rendre humbles, de nous donner davantage d'aimer, malgré les défauts que l'un et l'autre peuvent avoir. Parce qu'on n'avait pas épousé les anges, on a épousé des hommes, n'est-ce pas? Et de nous aider à aimer l'autre comme des amis, comme des frères. Tel peut être le remède pour la dureté de notre cœur. Que le Seigneur nous aide, qu'il visite nos foyers et qu'il guérisse ceux qui étaient malades. Qu'il bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen.